Chapitre 5. Mon père, écrivit Brigitte, s'est révélé à moi sous un jour nouveau. Je ne croyais pas que le mécontentement énergique pût entrer dans son caractère. Je me trompais et j'ai dû écouter beaucoup de reproches, subir un assaut qui m'a déconcerté. Ce matin encore, il est revenu sur le sujet qui nous divise. Enfin, quelles sont tes raisons, Brigitte? Tu n'en as aucune. N'est-il pas absurde de refuser un pareil parti? Un pareil parti, est-ce ainsi que j'envisage l'avenir poétique? Est-ce donc sous la forme d'un parti plus ou moins honorable? Quelle couleur grise jetée sur la trame brillante ou séduisante de mes pensées solitaires! Mais, mon père, je n'ai jamais songé que M. Duras pût devenir mon mari. Cependant, tu l'accueilles et tu le vois avec plaisir, je l'ai bien remarqué. C'est un excellent ami, mais il y a un abîme entre un ami et un mari. Un abîme? Quelle singulière idée! Elle me paraît fausse, répondit mon père en réfléchissant. Un mari doit être l'ami de sa femme, et la femme n'a rien à désirer en dehors d'une union ainsi comprise. Rien à désirer? M'écriai-je. Mais quoi donc? Demanda-t-il étonné. J'ai vu quelquefois des gens passer près de fleurs ravissantes sans les regarder, sans s'aviser de les trouver belles. S'ils ne voient ou ne comprennent pas eux-mêmes, aucune explication ne pourrait développer le sens qui leur manque. N'en est-il pas ainsi au moral? En écoutant mon père, je regardais ma fleur et lui disais « Ferme ta corolle et ne l'ouvre que pour moi. Il y a dans ton calice des sourires que mes yeux seuls peuvent apercevoir. » Perdu dans le cher rêve, j'oubliais mon père qui me dit impatiemment « Eh bien, Brigitte, à quoi penses-tu ainsi, les yeux dans l'espace? Commences-tu à comprendre qu'en refusant M. Duras, tu passes à côté du bonheur? Non, dis-je, pour moi, le bonheur est ailleurs. Malgré mes observations et mon désir de te voir faire cet excellent mariage, pardonnez-moi, mais je ne puis dire oui. » Mon père apparut tout dérouté et même irrité, lui, l'homme le plus indifférent aux choses de la vie, qui le visite sans qu'il les remarque ou s'en soucie. Dans la journée, ma cousine Taillanderie est arrivée. « Eh quoi, petite sotte, qu'ai-je appris? Vous refusez M. Duras ?»« Oui, ma cousine. »« Vous avez perdu la tête. »« Je ne crois pas, mais je la perdrai certainement en acceptant avec répugnance un mariage. »« Peste, répugnance, que vous faut-il, petite? Avez-vous pensé que... sans grande fortune, vivant dans un trou, aucun prince féerique ne viendra vous chercher. D'ailleurs, Duras est charmant. Je ne pense pas au prince des contes de fées, ai-je répondu tranquillement, mais à l'homme qui saura me plaire. Et pourquoi Séverin Duras vous déplaît-il? Je n'ai pas dit qu'il me déplaisait, répliquai-je vivement. Il me plaît beaucoup, au contraire. Mais de là à l'épouser... Est-ce à cause de la différence d'âge? Il faut savoir faire un sacrifice, et celui-ci est léger. À 42 ans, un homme est très jeune, et Séverin confirme, par son apparence, ce que j'affirme. Non, dis-je, ce n'est pas pour cela. Brigitte, écoutez une femme qui, malgré ses travers, ne manque pas de bon sens. Dans cette circonstance, vous suivez votre imagination, non la raison. Croyez ceci, la vie n'est pas un rêve, mais une réalité. Rien ne m'est désagréable comme ce genre d'attaque. Que sait-elle du rêve, cette vieille femme enfouie dans une métairie? Que sait-elle de la vie? Pour elle, le chemin connu, le vulgaire chemin battu est l'idéal. Et quoi de plus chemin battu que d'épouser un voisin de campagne dont les qualités et certains avantages extérieurs doivent plaire à une fille isolée, de fortune médiocre? Pour Madame Taillanderie, le bonheur ainsi présenté est la réalisation des plus douces aspirations. Elle m'observait d'un air narquois et agacé. Brigitte, reprit-elle, je me demande pourquoi, bien que vous soyez romanesque et sans jugement, je suis attirée vers vous. Mais vous êtes sans mère, et ce n'est pas mon absurde cousin qui peut vous guider. J'aurais voulu devenir votre ami et combler un peu les lacunes de votre existence. Elle était si sincère, malgré la forme désobligeante de son discours, que je me suis senti tout ému, moi qui ai si peu d'amis. Seulement, ce n'est point vers elle que va mon cœur pour s'ouvrir. Que ses souffrances lui restent inconnues. J'aimerais mieux lui vanter un bonheur imaginaire que de lui dire mes pleurs secrets. Je vous remercie de tout mon cœur, ma cousine, mais les lacunes de ma vie ne sont pas aussi grandes que vous le supposez, et quant à mon père, il est bon. Elle a haussé les épaules, puis est partie brusquement. 15 mars. Mon père s'est résigné et nous sommes dans le calme. M. Duras est venu plusieurs fois. Il a repris d'une façon si simple et si courtoise nos relations, où nous les avions laissées avant cette malencontreuse demande, que j'ai été presque naturelle. Néanmoins, ce ne sera plus comme autrefois, et au fond, il y a entre nous un malaise que la bonne grâce de notre voisin ne pourra dissiper. Cette amitié si franche, comme je la regrette! Où la retrouverai-je? En attendant, voici la mauvaise saison envolée. Jamais plus beau mois de mars ne s'est décidé à sourire. Les ruisseaux sont bordés de plantes fraîches qui commencent à grandir, les senteurs nouvelles passent dans l'air, mais si la beauté du printemps apporte généralement des espérances à la jeunesse, elle m'attriste par un contraste pénible. Les occupations pratiques, peut-être ainsi appelées parce qu'elles ne nourrissent ni le cœur ni l'esprit, ne m'absorbent pas. J'ai fait préparer la chambre du coin pour le savant que nous attendons. Elle est raide et sévère, cela doit convenir à l'âme de cet intrus, dont le bavardage érudit sera un ennui de plus dans ma vie et troublera la tranquillité de mes pensées quand elles me font voyager en pays enchanté. Pauvre Duras! Lui aussi avait rêvé à sa manière et il a été déçu. J'en ai une peine extrême. Mais il guérira vite, son amour manque certainement d'envergure. Tranquille et pacifique, le sentiment cédera facilement le pas à la raison. Mais j'aurais voulu ne point être pour lui la cause d'une souffrance, même passagère. 16 mars. Le pays enchanté m'est apparu d'une façon vivante aujourd'hui, pendant que je m'enfonçais dans mon sentier favori qui aboutit à une petite nappe d'eau transparente. Qu'il est différent du pays matériel sans cesse sous mes yeux. Au milieu du soleil qui passait entre les branches bourgeonnées, j'accueillais les promesses radieuses de l'avenir. Enveloppées encore d'une brume que le temps ou un événement dissipera, elles me sortaient de mes tristesses, mettant un rayon vif et pur dans la solitude de mon cœur. Promesses de bonheur, promesses de jours parfumés, je les reçois avec une joie que moi seule connais, avec une certitude calme et joyeuse qui ranime la gaieté de ma jeunesse. 25 mars. Eh bien, mais quelle aventure ! Ce savant ! Pendant que mon père se promenait au bout de la Solée avec un de mes ennemis, c'est-à-dire un livre érudit, et que dans le salon je lisais un roman de Feuillet, j'entendis une voiture. En reconnaissant le bruit d'une voiture à quatre roues, je crus d'abord à une visite de ma terrible cousine. Mais on vint me prévenir qu'un monsieur demandait mon père. Dans le vestibule, je trouvai un jeune homme grand, élégant, qui surveillait l'entrée d'une malle énorme. Fort stupéfaite, je pensais « Qui est-ce donc? Est-ce un parent? Et mon père, toujours distrait, a-t-il oublié de me prévenir ?» Il me fit un salut profond. « Permettez, mademoiselle, que je me présente moi-même, monsieur Rudal. » Mon étonnement fut si manifeste que je vis poindre un sourire sur son visage. « Le savant? Le secrétaire? Mais c'est impossible » m'écriai-je. « Pourquoi impossible ? » demanda-t-il d'un air amusé. « Mais, monsieur, parce que... » J'allais dire une sottise. Heureusement, je me remis assez pour me taire et l'introduire dans le salon. Mon père, appelé par la cloche, arriva presque aussitôt et je me sauvai avec empressement sous prétexte de faire monter la malle dans la chambre préparée par moi les jours précédents. « Si j'avais su... » J'aurais mis un soin tout différent à la préparation de cette chambre trop sévère. Mais comment prévoir qu'un savant pouvait être si jeune et, il faut l'avouer, si bien? immédiatement accaparé par mon père, pressé de lui apprendre ce qu'il attendait de lui, j'ai à peine vu notre hôte ces 5 premiers jours. Mais hier soir, devant moi, il a causé longuement et je m'étonnais de découvrir des aperçus nouveaux dans une conversation savante. Monsieur Rudal parle simplement, sans employer de mots étranges. Il m'a expliqué des points obscurs avec une lucidité qui enlève à l'érudition son aspect barbare. C'est un homme évidemment aimable et très intelligent. Et quand, aujourd'hui, caché derrière les saules, je l'examinais, avec un étonnement qu'explique mes idées arrêtées sur ce secrétaire, vieux, bavard, ennuyeux, je riais toute seule. M'ayant aperçu, sous le couvert de mes arbres, il s'est approché de moi après un peu d'hésitation. Nous avons parlé du pays, de ses ressources, de la solitude dans laquelle nous vivons. Je la comprends pour M. Déponet, il a son monde particulier qui l'intéresse au plus haut point. Mais elle doit, mademoiselle, vous paraître un peu austère. « Oui, répondis-je, sans avoir le temps de réfléchir assez pour me dérober à cette question directe. Mais, ajoutai-je aussitôt, j'ai moi aussi 1000 occupations. » Il a souri, et ce sourire fin exprimait bien des choses. Nous avons causé ainsi assez longtemps, et mon impression favorable s'est accentuée. Son langage est toujours châtié, et ce qui me frappe beaucoup chez lui, un peu lente et très charmante à mon avis, dont il prononce les phrases. S'il se permet une légère licence, elle fait ressortir la distinction de sa prononciation et du choix habituel de ses mots. Il a l'aisance et l'esprit d'un homme qui a vu en même temps qu'étudié. Parfois, son beau visage s'assombrit. Pourquoi ? Mon père, charmé de son hôte, m'en a fait un éloge sans mesure. « C'est un savant, Brigitte, et un esprit net. Il mènera si rondement la besogne que, dans 3 ou 4 mois, nous pourrons songer à te distraire par un voyage. »« Ne vous occupez pas de moi et travaillez, ai-je répondu. Mais qui donc vous a envoyé M. Rudal ?»« Un de mes vieux amis de Paris qui a été son professeur et apprécie son intelligence. »« Qui est-il et pourquoi accepte-t-il une position de quelques mois ?» Il appartient à une famille honorable, mais très pauvre, du Midi. Ses parents sont morts il y a quelques années. Ensuite, il a eu, m'a-t-on écrit, beaucoup de déboires. C'est un malchanceux. Cependant, des promesses lui ont été faites pour le caser honorablement. On attend une vacance. C'est un bien aimable garçon. Jamais, avec moi, sur aucun individu, mon père n'avait discouru aussi longuement. C'est l'indice de son heureux état d'esprit au sujet du travailleur venu l'aider. Malchanceux dans la circonstance signifie méconnu. La pensée qu'il a souffert et souffre encore le rend plus intéressant que toute sa science. J'espère que des relations quotidiennes mettront bientôt entre nous une confiance assez grande pour que j'acquière le droit de causer avec lui des ennuis qui l'obligent à accepter des positions provisoires si peu en rapport avec son mérite évident. N'est-ce pas romanesque, ce contraste entre mes préventions et la réalité ? Je voudrais que M. Duras le vit, mais il est parti. Que son voyage atténue ses regrets. Qu'il revienne avec des idées nouvelles. Pourquoi pas ? N'est-il pas un pacifique et un raisonnable ? 5 avril. Ainsi que je le prévoyais, les conversations des deux savants se prolongent indéfiniment et je vois peu M. Rudal. Mais quand ils discutent dans le salon et que ni l'un ni l'autre ne pensent à mon existence, je glane silencieusement et j'emporte ma moisson dans mes promenades solitaires. Il n'y a pas que l'érudition dans cette moisson, mais des idées qui m'ouvrent souvent tout un monde. Je sens alors plus vivement mon inexpérience. Malgré l'humeur de Baptiste, je m'occupe activement de la maison. J'entends que le service marche mieux et que la vulgarité d'ennui mesquin ne désoblige pas notre hôte pendant son séjour ici. J'entends qu'il emporte, de notre demeure, un souvenir qui ne pourra se perdre sans l'impression d'un fait aimable disparu. Hier seulement, il a demandé à visiter notre manoir. « Brigitte va vous accompagner dans tous les recoins, » répondit mon père. Je lui ai donc fait visiter la maison du haut en bas, sans omettre les cachettes et les traditions. Il paraissait médiocrement intéressé, bien que des souvenirs historiques, nous entourant de toutes parts, Noirpin ait sa place marquée dans les traditions locales. « Pourquoi, dis-je en revenant dans le salon, ces vieilles choses nous plaisent-elles autant ? Pourquoi tant d'attraits, d'émotions ou de douces mélancolies attachées à l'inanimé ?» Ma question, ou plutôt la forme, car le fond était banal, a paru éveiller son intérêt et il m'a observé avec une attention qu'il s'était gardé jusqu'alors de m'accorder. « L'imagination de l'homme le trompe toujours, » m'a-t-il répondu. « Le trompe ? En quoi le trompe-t-elle ? Dans ses admirations ou son affection pour de vieux souvenirs ?» Parce qu'elle colore, on voit sous la patine du temps ce qui n'a jamais existé. En êtes-vous sûr ? Mais j'ai remarqué, ajoutai-je, que sur plus d'un point, vous parliez avec scepticisme. Vraiment ? Et à quoi avez-vous découvert que j'étais sceptique ? Oh, j'écoute vos conversations avec mon père et je tire des conclusions, dis-je en riant. Quand vous travaillez ainsi tranquillement dans l'embrasure de la fenêtre où je vous vois si souvent, vous n'êtes donc pas absorbé par votre broderie, comme je le supposais ? Mais non. Le regard qui, à cette réponse, m'a enveloppé, signifiait, je crois, qu'on venait de me découvrir. J'en reviens à votre assertion de tout à l'heure, reprit-il. Êtes-vous bien certaine que je sois sceptique ? Peut-être faudrait-il un autre mot. Depuis, j'ai réfléchi à ces paroles auxquelles je ne pouvais pas répondre, n'en ayant pas saisi le sens. Mais seul, en les creusant, j'ai songé qu'il parlait du sentiment désenchanté qui s'empare de l'homme malheureux. Lors même qu'il y eut de l'irréel dans ses vieux souvenirs, dis-je en éludant une réponse directe, « Dites-moi si l'irréel n'est pas plus séduisant que le terre-à-terre, le positif qui frappe notre vue ?»« Un poète ne parlerait pas autrement, » me dit-il en souriant. Heureuse de causer, heureuse de penser que je serais comprise par un homme intelligent, je répondis, « J'ignore si c'est être poète que d'aimer à suivre les douces et belles visions, soit que le passé les rappelle, soit que l'avenir nous les apporte comme une espérance. Les douces visions sont de votre âge, alors que rien n'a pu les troubler, elles gardent toute leur fraîcheur. En moi-même, je pensais, elles sont bien du vôtre également. Un homme de 28 ans doit avoir, comme moi, des rêves pleins d'espoir. » Je n'osais rien dire. Il me regardait d'un air intimidant et, s'il me devinait, voulait passer outre, car il reprit « Comme votre intelligence est loin du travail de vos mains. Vous êtes, cependant, continuellement occupé d'une façon très positive pour employer votre expression. La pensée est indépendante. Certes, et empreinte d'une grâce bien particulière quand elle vit dans un esprit de jeune fille. » Nous causions ainsi à la place où M. Durand m'a trouvé si souvent. Quelle différence entre leurs aperçus ! L'un eût cherché à me ramener sur terre, l'autre comprend que l'âme s'échappe et vive. Cependant, M. Durand eut partagé mes impressions de poétique mélancolie en face du passé, tandis que M. Rudal reste froid. Son sentiment, légèrement agressif, tient évidemment aux souffrances de sa vie actuelle. N'ai-je pas moi-même, quand je souffre, une tendance à tout assombrir ou à m'irriter sans raison ? Il est profondément intéressant d'étudier, comparer ainsi, les deux seuls hommes que je puisse observer de près. M. Rudal est plus complexe et son regard est plein d'inconnus. Qu'y a-t-il dans cet inconnu ? Renferme-t-il les tumultes et les orages d'une âme passionnée ? Est-il la souffrance amassée dans une vie pénible ? Pour un cœur fier, la dépendance où conduit la pauvreté est une douleur très âpre. Quand il laisse échapper des mots amers, mon cœur bat, car une amitié féminine serait pour lui un bienfait pacifiant et je voudrais qu'il cherchât cette amitié auprès de moi. Du moins, j'aurais fait quelque bien pendant son passage en Vendée.